Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court, qui rencontre des artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, la réalisatrice Bojina Panayadova.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t-on qui court.
Marie Richaud avec Bojina Panayotova.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
La petite fille a 8 ans, on peut soudain sortir la nuit. Elle ne sait ni où se trouve Berlin, ni où se trouve Paris. Le mur vient de tomber, la vie va être plus large d'un coup et les comptines bientôt se chanter en français. Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picotit, picota, lève la queue et puis s'en va. Lorsque vos parents quittent la Bulgarie pour s'installer en France, vous êtes enfant, Bojina Panayotova. Ce n'est que bien des années plus tard et avec quelques fortes intuitions dans le cœur que vous décidez de passer votre permis de conduire à Sofia. Peut-être parce qu'on gagne beaucoup à être au volant de sa propre histoire. Avec un matériau d'image hétéroclite, de l'humour, de la pugnacité, une caméra bifrontale, vous montez dans le drôle de véhicule qu'est un film en train de se faire et vous poussez tout le monde dans ses retranchements, votre mère, votre père, vos grands-parents et vous-même, à l'occasion de l'ouverture des archives de la police secrète bulgare et de manifestations anticommunistes en 2014. « Je vois rouge », c'est le titre de votre premier long-métrage, il est en salle aujourd'hui. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Il sera visible dans plein de séances spéciales présentées, commentées par vous bientôt, dès ce soir, dès demain.
Oui, dès ce soir à Nantes, ensuite Marseille, voilà, puis il sort dans la plupart des grandes villes en France.
Et quand je vous dis rouge, vous voyez quoi ?
La lumière qui enregistre ici, ici aussi.
Et sinon, vous voyez ça ?
De l'émotion, en fait, quand vous lisez le texte que vous avez écrit, ça me fait des frissons. Pour moi, le rouge, c'est aussi ça, c'est le sang qui monte à la tête, quoi, c'est le frisson.
Les enfants sont des chercheurs et quand on cache quelque chose, ils vont le chercher, essayer de le déterrer. Je suis passé devant un carré enfant suisse, devant une petite tombe, très précisément, sur laquelle était écrite « Chère petite fille ». Nous t'aimons plus que de raison. Et cette phrase-là m'a abattu. Et c'est vrai que j'ai surtout ressenti, et pas appris, mais ressenti que je portais une tristesse qui n'était pas la mienne. J'avais aucune raison, moi, de m'effondrer devant des petites tombes, même si les tombes d'enfants sont toujours émouvantes. Mais une tristesse aussi profonde, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne porte... Enfin, ça n'est pas ma tristesse, ça n'est pas quelque chose qui est à moi, que je porte.
Il y en a avoir plein, des petits bruits comme ça, de téléphones qui s'éteignent, de caméras qui se coupent brutalement, de bruits de clavier. Dans ce film-là, Je vois rouge, c'est un moment où vous êtes devant un ordinateur et vous reprenez avec votre voix d'adulte un chant entonné par des enfants. Quel chant, avant qu'on parle d'Eric Caravaca, le réalisateur qu'on entendait avant ?
Alors ça, c'est un chant russe en fait, c'est une chanson russe que chantait... des petits pionniers, les petits pionniers, c'est les enfants de la jeunesse communiste qui portent un petit foulard rouge. Alors, c'est une chanson qui est pas spécialement communiste, c'est pas spécialement une chanson de propagande, c'est une chanson d'anniversaire, en fait. Mais elle est chantée par ces enfants-là, et c'est vrai que c'est marrant que vous commenciez par ça, parce que c'est vraiment le point de départ du film, c'est cette chanson. C'est-à-dire que voilà, quand je discutais avec un producteur de l'idée de faire un film en Bulgarie autour de mon enfance et du communisme, je savais que cette chanson, je la connaissais par cœur et que ce petit pionnier, bah, il était quelque part en moi, que j'avais une grande nostalgie en fait de cette enfance-là. Et que ça me posait en même temps problème. Et là, peut-être, je rejoins l'archive d'Éric Caravaca, c'est que c'était un sentiment très mélangé de tristesse, sûrement, voilà, ce monde naufragé, quoi, qui n'existe plus. Et puis, en même temps, une culpabilité. Alors là, à ce moment-là, je la comprenais pas du tout. Mais voilà, je savais que si je fouillais là-dedans, en partant de cette archive-là, eh ben, y aurait en tout cas beaucoup d'émotions qui allaient en sortir. Et puis ensuite, voilà, j'ai voulu la garder dans le film, pas seulement par sentimentalisme, mais aussi parce que, vu la démarche que je fais, qui est assez radicale, où je deviens à un moment donné inquisitrice de mes parents, de ce régime, etc., en même temps, je voulais qu'on sente que je le portais à l'intérieur de moi en même temps. C'est-à-dire que je suis aussi le produit de tout cet univers. Et c'est incorporé. C'est dans ma voix, dans mes mots, dans mon... Voilà, je suis aussi cette petite fille.
Et d'ailleurs, c'est par une voix de toute petite fille. Et c'est pour ça que je tenais à dire les mots de cette comptine-là, parce qu'elle est dite en français avec un accent bulgare. Et qu'on peut ne pas forcément distinguer. Moi, j'ai écouté une deuxième fois le début du film parce que je me disais, mais il y a un truc qui me bouleverse dans ce début de film et je sais pas quoi. Et c'est ça, c'est ce morceau d'enfant qui se déplace, qui chante d'un seul coup dans une autre langue, qui se débrouille pour apprendre la plus franchouillarde des comptines françaises. Et je trouvais que ça racontait énormément de ce début de film qui peut-être va aller ensuite vers des trucs peut-être plus politiques, plus historiques, mais qui commence par là.
Oui, oui. Effectivement, c'est tout l'effort. Là, cette comptine française, c'est... donc là, j'ai 6 ans. Ma mère, qui est déjà prof de littérature française en Bulgarie, essaye de m'apprendre un peu le français, quelques mots comme ça. Et cet effort-là de devenir française, bah, c'est celui après que j'ai eu pendant 20 ans, quoi. Et qui, une fois que ça a été... fait, une fois que je me sentais bien ici, j'ai eu besoin de retourner en arrière et c'est vrai que c'était aussi un manque et un nouvel effort pour cette fois me réintégrer dans mon pays qui a en fait aussi poussé le film en avant. C'est-à-dire que il y a les histoires politiques, mais c'est vrai que le fond du fond, c'est une envie, un besoin de me reconnecter à ma génération. Voilà, comme
beaucoup, en Bulgarie,
comme beaucoup d'immigrés, voilà, à un moment donné, on se reconnecte, on a besoin de retourner en arrière. Et donc, moi, ça me raconte ça aussi. C'est à la fois le regard de l'enfance, parce que du coup, bah, comme j'ai raté 20 ans quand même, il y a aussi cet état-là dans lequel je suis revenue. Je pouvais pas, faire semblant que j'avais tout compris et que j'avais peut-être oui lu certaines choses, entendu certaines choses, mais quand on n'a pas eu l'expérience de la transition post-communiste, voilà, qu'on l'a pas vécu tous les jours, on débarque avec une grande naïveté quand même.
Et vous débarquez pas dans n'importe quelle ambiance, si je puis dire, puisque très très rapidement après ce montage sonore et ce montage d'images, notamment des enfants qui courent comme ça dans une prairie, c'est une queue de cheval de vos cheveux blonds qui avance dans des manifestations, qui ouvre le présent de ce film-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors là, on est fin 2013, il y a un mouvement de contestation qui dure depuis... quelques semaines, qui va durer encore quelques mois et qui est donc le plus grand mouvement de contestation qu'il y a eu en Bulgarie depuis la chute du mur, depuis 1989, et où les gens, beaucoup de jeunes, sont descendus dans la rue pour remettre en question la manière dont le pouvoir aujourd'hui pouvait tirer ses racines dans le pouvoir d'avant. Donc, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement ou ce qui est dans les coulisses, les oligarques, hein, en Bulgarie comme dans beaucoup de pays de l'Est, il y a une grosse mainmise de la mafia. Et qui, en fait, quand on regarde qui sont ces gens, bah souvent ce sont des gens qui étaient au pouvoir avant, qui étaient liés au réseau de la police secrète ou dans la nomenklatura, enfin voilà. Et donc les jeunes étaient dans la rue, criaient « ordure rouge », c'est le slogan qui m'a, moi, beaucoup frappée.
Communiste, cassez-vous.
Communiste, cassez-vous. Voilà, ce qu'il faut entendre hein, tout de suite, c'est qu'en Bulgarie, quand on dit communiste, on ne parle pas d'idéologie, hein. On parle de... Du système, du régime totalitaire tel qu'il a existé. Donc on n'est pas du tout dans les idées de gauche ou de droite, c'est pas la question. On parle de... Les communistes, quand les gens disent ça, on entend soit les grands-mères qui sont restées communistes, comme la mienne, aussi pour le coup dans l'âme, quoi, qui croient encore, ou bien les mafieux. Voilà.
Mais vous avez du mal à l'entendre, et en même temps, il y a quelque chose qui, dans le film, se met vraiment en mouvement, en même temps que ces gens sortent dans la rue, brandissent des pancartes, disent ces slogans-là. Et vous, il y a une dissonance qui fait que vous ne pouvez pas les dire.
Oui, exactement. Alors déjà, tout simplement, je le prends personnellement, c'est-à-dire que je me dis, mais les ordures rouges, c'est qui en fait ? Déjà, donc il y a mes grands-parents, c'est sûr, ils sont rouges. Quand je réfléchis un peu, bah, mes parents, ils l'étaient aussi. Et moi, quand même, je débarque vraiment avec cette nostalgie rouge dont j'ai parlé au début,
du petit foulard.
Donc, je me sens un peu visée. Et puis, voilà, dans les discussions avec les gens dans la rue, où ça parle donc beaucoup de la répression, de tous les aspects négatifs qu'il y a eu sous le régime et après les changements, je commence à me dire, ah, mais il y a quand même un décalage énorme avec ce que j'ai l'impression de savoir autour de ma famille. Parce que, même si, voilà, j'en ai évidemment entendu parler, ça a toujours été comme quelque chose de très abstrait. La répression, c'est quelque chose qui a existé il y a très longtemps, dans les années 60, et ça ne nous concerne pas. Nous, on est des gens ordinaires, il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus.
Et en même temps, vous faites apparaître à l'écran, très rapidement dans ce film-là, une carte des camps, avec des petites flèches, si bien qu'on passe de quelque chose de très abstrait à quelque chose de très concret et de très visuel. Pour revenir à ce que disait le réalisateur Eric Caravaca, qui dit de toute façon les enfants ça déterre, de toute façon il y a quelque chose qui va faire son chemin et un jour va demander à être creusé. Vous arrivez avec quoi comme sensation bizarre ? À un moment donné, vous discutez avec votre mère en disant, au tout début, j'ai l'impression qu'il y a des secrets, maman, je sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des secrets.
Ouais, bah c'est vrai que c'était une intuition très étrange qui a grandi sans cesse pendant le film, avec même parfois de la paranoïa, hein, parce que je pense que c'est le sentiment général, enfin généralisé qu'il y a en Bulgarie autour de cette question. C'est la maladie en fait des régimes totalitaires et ceux-là en particulier, c'est la paranoïa. Donc j'étais aussi là-dedans clairement. Voilà, les secrets, bah, je pense que il y avait quelques souvenirs très très flous de conversations que j'avais entendues autour de mes grands-parents, voilà, du fait que ils avaient voyagé. Je pense que le regard d'autres personnes dans la société, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas eux des intellectuels ou qui avaient une certaine place dans le système, voilà, des gens plus ordinaires. Je pense que j'avais dû comprendre qu'il y avait un sous-entendu, voilà, bah forcément vous faisiez partie des gens plus privilégiés. En sachant qu'on parle de privilèges, de petits privilèges. C'est pour ça que mes parents sont très heurtés dans le film quand je commence à mettre ce mot-là, en fait, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des biens, il y a des... voilà, c'est les privilèges des régimes communistes quand on est intellectuel, quoi. Et je pense que le moniteur d'auto-école dont vous avez parlé dans l'introduction joue un peu ce rôle-là, en fait. Je suis allée rencontrer quelqu'un qui n'était pas de mon milieu. Donc voilà, passer mon permis de conduire, c'était un prétexte, mais c'était aussi avoir cette discussion avec quelqu'un qui est en dehors de ma famille et pour qui ça semble évident dès que je dis, voilà, mes parents, mes grands-parents ont pas mal voyagé pendant le régime, et puis on n'a pas beaucoup parlé de répression. Pour lui, c'est évident qu'ils étaient dans le système.
Accélère et regarde à gauche.
Je regarde quoi ? C'est moi qui ai la priorité ?
Non, regarde à gauche.
Là, c'est bon ?
Vas-y, après lui. Appuie sur l'accélérateur, puis retiens. On continue tout droit. Qu'est-ce que tu disais, Bojina ?
C'est juste que je me rends compte que dans ma famille, on a très peu parlé des aspects négatifs du régime. Par exemple, la répression.
C'est normal.
Non, mais ils n'en parlaient pas.
Et ils ne le feront jamais.
Mais pourquoi ?
Tu tiens à le savoir ?
Ben oui.
Passe en première.
Tu me manques.
Pardon, mais c'est qui ce type en fait ?
Ben, tu sais, c'est le gars avec qui j'apprends à conduire. Je t'en avais parlé.
Ouais, non, mais j'ai bien compris, mais ouais. Juste pourquoi il dit des trucs comme ça ?
C'est parce qu'il fait des hypothèses pour lui, tu vois. C'est évident que s'il sortait du pays, si, vu leur métier, etc., ben, voilà, il devait être dans le réseau de la police secrète. Tu vois, il devait faire partie du système de la nomenclatura, ou, enfin, je sais pas, tu vois. C'est... Non, mais tu vois, je me demande même, est-ce que mes parents, est-ce qu'ils seraient au courant ? Ou même, est-ce que juste ils sont déjà posé la question ? Parce que, comme ça fait 20 ans, si tu veux, qu'ils sont en France, ça se trouve, tu vois, cette question de la police secrète, des archives de la police secrète, ce truc. Tu vois, ces archives, elles ont été ouvertes il n'y a pas si longtemps. Et moi, mes parents, jamais ils m'ont parlé de police secrète, jamais on a parlé des camps de concentration, tu vois.
Hein ?
C'est flippant, enfin, c'est la Stasi bulgare, quand même.
J'entends pas, en fait, j'entends rien.
Non, je dis que c'est flippant.
Ouais, non, mais je crois que t'as l'ordi qui est en...
En fait, c'est parce que je suis dans la salle de bain. Je suis dans la salle de bain chez mes grands-parents, du coup.
Oui.
Tu m'entends pas, là ?
Si, si, ça y est. Mais en fait, juste, pardon, mais tu vas revenir quand ?
Ben, je sais pas, mais... Je pense qu'en tout cas, je vais pas rentrer tout de suite.
Cette dernière phrase de la discussion avec ce qu'on imagine être votre amoureux à l'écran, Bojina Payanatova, je ne vais pas rentrer tout de suite, laisse augurer de tout ce qui va suivre, de votre obstination, de la manière dont vous allez questionner des archives, mais aussi votre grand-mère, votre mère, votre père. Juste avant, on entendait ce petit extrait de la leçon de conduite, parce qu'en effet, ce professeur de conduite, il offre, vous le disiez tout à l'heure, à la fois une sortie de votre classe habituelle et de votre milieu, mais aussi du calme et aussi un regard sur votre propre regard. Il se trouve que vous le mettez en scène dans le montage de cette manière-là. Est-ce que c'était aussi le cas et de manière aussi forte dans le réel ?
Alors, c'était une des idées au tout début, quand je suis allée en Bulgarie, voilà, de passer mon permis de conduire avec l'idée que ce serait peut-être un moyen de me réapproprier la ville. Moi, j'étais toujours perdue dans la ville, je comprenais rien aux rues. Et puis, j'avais jamais passé d'examen, justement, j'avais jamais été vraiment à l'école. Donc, voilà, c'était une manière de passer un examen. Et en fait, très très vite, quand j'ai rencontré ce moniteur d'auto-école, j'ai senti que ça allait être très important ce qui allait se jouer, parce que très vite, il s'est mis à devenir comme mon psy, en fait, tout simplement. Et sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire que c'était aussi bien sur ce que je comprenais du régime, du présent de la Bulgarie, que effectivement sur ma propre démarche. On était très complices, c'est-à-dire que c'était lui qui m'installait la caméra. Voilà, il avait trouvé le dispositif pour l'installer dans la voiture de l'auto-école. Et ensuite, bah, on improvisait, enfin, c'est-à-dire qu'on conduisait vraiment, enfin, c'est-à-dire que je passais vraiment mon permis de conduire.
Vous l'avez eu ?
Et je l'ai eu.
Bah oui, vous l'avez eu. Votre mère dit dans le film qu'elle est très fière, c'est vrai.
Ouais. Donc voilà, et en fait, je sentais pendant le tournage, en fait, rien n'était vraiment mis en scène, mais je sentais que ce jeu qu'il y avait entre lui et moi, en fait, était très important parce que ça allait être comme comme dans une tragédie grecque où il y a le cœur en fait qui commente l'action, aussi en même temps une sorte d'oracle qui vient me presque prédire les choses, enfin. Et surtout, parce que vous avez dit, apporter un point de vue qui est qui va en fait apporter une réflexivité sur ma propre démarche, plutôt que d'avoir simplement une enquête sur ma famille. Je sentais que ce qui se jouait de plus important, en fait, c'était la confrontation des points de vue et ce que j'étais moi-même en train de fabriquer comme comme démarche. Et lui, de ce point de vue-là, il m'apprenait, ben voilà, à conduire et à me conduire. Enfin, il y avait un truc là-dessus qui fonctionnait très bien, quoi.
La fin du film dit que souvent le cinéma cherche des drames, parfois en occultant la complexité des individus et donc la pluralité des points de vue et le fait que, ben, d'histoire, il n'y en a que au pluriel. Et peut-être que ça se traduit par la pluralité des matériaux. Je m'explique. Est-ce qu'une partie de la complexité à laquelle vous finalement vous aboutissez, elle passe pas aussi par des partis pris esthétiques très forts?
Oui, ben, je suis d'accord, oui. Je pense que, voilà, moi, je suis de cette génération qui est née quelque part avec le numérique, avec les webcams, avec Internet et la prolifération des images, les selfies, enfin, voilà, tout ça. Et en tant que cinéaste, j'ai l'impression que c'est une évidence qu'il faut se poser la question de nos propres démarches avec ces images, de la manipulation qu'on fait des images. Et donc pour moi, c'était dès que j'ai voulu faire le film, avant même de savoir que ça allait être à ce point-là sur la surveillance et donc encore plus mettre en abîme quoi toutes ces questions-là, je voulais effectivement faire un film en ouvert quoi, en work in progress, où on allait voir les coutures et quelque part solliciter le spectateur pour qu'il se pose la question, qu'il ne soit pas dupe de ce qu'on était en train de fabriquer. Ok, c'est du cinéma direct à un endroit, c'est authentique, c'est pris sur le vif, mais il y a du montage et tous ces matériaux-là, divers et variés, sont montés et proposent une diversité de points de vue qui fait que le spectateur ne suit pas un point de vue dans une zone de confort qui est, voilà, l'identification à, en l'occurrence peut-être à moi.
Une jeune femme de 30 ans qui enquête sur sa famille et sur la Bulgarie, quoi.
Voilà.
Et à commencer par peut-être votre premier outil qui est, je sais pas, une caméra ou un téléphone qui permet de à la fois filmer et être filmé.
Et ben voilà, ça c'était une application typiquement contemporaine de mon époque. En fait, c'est l'application de mon téléphone portable qui permettait de filmer avec la caméra du selfie et la caméra classique. Donc des deux côtés du téléphone et de construire un champ contre champ en live et qui est devenu effectivement emblématique de toute ma démarche. C'est-à-dire que plutôt que d'aller filmer seulement les autres, je voulais qu'on me voie aussi, qu'on voit le regard des autres sur moi. Peut-être aussi ce split screen, hein, puisque du coup, je l'ai pas monté.
Écran séparé,
voilà, à l'image, et qui souligne peut-être, voilà, cette ligne de démarcation, cette ligne de séparation qu'il y a peut-être entre les générations. Pour moi, c'était ce que je voulais vraiment rendre visible, tangible. C'était cette ligne qui sépare, les gens en Bulgarie, en fait.
Par exemple, ce n'est pas une caméra qui vous filme, vous, en train de poser des questions à votre père et ensuite votre père en train d'y répondre, mais la même chose, les deux visages en même temps à l'écran, c'est-à-dire vous, éventuellement, qui faites l'amour quand votre père hausse le ton et dit que vous êtes dans une génération qui veut fouiller à toute vitesse sans respecter le secret, ou idem pour votre mère, où à chaque fois, en fait, on n'échappe à rien. Et vous non plus.
Ouais, c'est ça. Effectivement, d'ailleurs, c'était assez vertigineux pendant le tournage. À un moment donné, je me suis rendu compte que plus le sujet de la surveillance devenait central, plus je me rendais compte que les outils que j'utilisais, c'était les outils d'auto-surveillance d'aujourd'hui, en fait. Et donc, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une caméra de surveillance dans ma piole, quoi. C'est moi que je suis en train de surveiller, là. Donc cette figure de l'espion que j'ai contactée en faisant le film, elle a aussi agi sur moi en fait, pas seulement sur mes proches.
Par exemple, vous réclamez, on imagine, les images de surveillance au centre d'archives de la police secrète et d'un seul coup, bah, un entretien que vous avez avec une personne pour ouvrir les dossiers, il nous apparaît, nous, en noir et blanc, dans une image légèrement modifiée parce que issue de la caméra de surveillance de l'endroit.
Ouais, exactement. Alors là, c'est que voilà, on m'a interdit de filmer au début, je n'avais pas les autorisations. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement non pas de filmer seulement quand j'avais les autorisations, en ayant tout bien préparé, expliqué d'abord ce qu'on allait filmer, éventuellement rejouer. Non, ça m'intéressait pas. Je voulais voilà inclure les accidents, voilà. Et en l'occurrence, cet accident-là m'a poussée, j'ai tout simplement remarqué au plafond cette caméra de surveillance, et je suis allée demander, très naïvement, je pensais pas du tout que c'était possible, évidemment, qu'on me donne ces images-là, mais comme en Bulgarie, voilà, c'est un pays où tout est encore possible, ce genre de choses, les institutions sont pas encore assez fortes, il y a encore des êtres humains qui se permettent des choses, et puis aussi peut-être cette institution donc qui archive les documents de la police secrète veut se montrer la plus transparente possible. Donc on m'a dit ok, pourquoi pas, on vous donne ces images, après tout c'est vous qui êtes sur ces images. Et donc je les ai utilisées pour jouer ce vertige-là, effectivement.
C'est le mot qui me venait à l'esprit parce que à plusieurs reprises, les gens que vous interrogez parlent de ce vertige, d'être dévoilé, de la peur du dévoilement, à un moment donné le passé appartient au passé. Est-ce que vous-même, produisant vous-même des images sur vous-même, vous avez eu ce vertige-là ?
Bah oui, je l'ai eu notamment en voyant la quantité d'images que je collectais, parce que donc ça a duré quand même un certain temps et moi j'archivais tout. Je pense qu'il y avait un besoin justement de rattraper le temps perdu à tout prix, de mémoriser ce qui se passait là, de l'archiver, voilà. Et je me suis retrouvée devant une matière. C'était un océan, quoi, d'images. Et potentiellement, je savais pas s'il y avait un film dedans. Il y avait beaucoup de conflits. Il y avait un gros risque, quoi. Il y avait ce risque de, quelque part, tout perdre sans forcément savoir s'il y avait un film. Donc oui, ça m'a fait très peur par moments. Mais je pense que c'était aussi le prix de cette démarche-là où j'avais décidé que, effectivement, je ne saurais pas à l'avance ce qui allait se passer. Je voulais vivre une expérience qui allait nous transformer. Et donc, ça voulait dire peut-être être dépassé, quoi, perdre le contrôle.
Quand votre mère vous interroge justement sur l'enregistrement, en vous disant « Mais pourquoi tu fais ça ? Arrête de faire ça !» Et vous lui répondez « Mais c'est ma manière de vivre !» Et c'est très fort d'avoir gardé ça au montage, parce que ça fait aussi vaciller ce que nous, on est en train de regarder. C'est, est-ce que c'est votre manière de filmer ? Est-ce que c'est votre manière de cadrer ? Est-ce que c'est votre manière de faire de l'art ? Et où est-ce que c'est votre manière de vivre ?
Ouais.
Ce qui est une chose d'un seul coup très puissante à laquelle on assiste, nous.
Et oui. Effectivement, je pense que là, il y a une culture qui est aussi propre, je pense, à ma génération, de l'art performatif, en fait, où il n'y a pas forcément de frontière entre la vie et l'art. Qui moi m'est très familière. J'ai l'impression que que ce soit Sophie Kahl ou enfin voilà, on pourrait en citer plein, mais c'est une évidence, quoi. Et je pense que ce que je voulais dire quand je répondais ça à ma mère, c'était aussi que j'allais aussi loin dans ma démarche avec elle, dans notre conflit aussi. Parce que j'étais en train de faire un film et que ces deux choses-là, voilà, étaient intimement mêlées. Et c'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas eu de film, j'aurais probablement pas fait, j'aurais pas été aussi loin. Et je ne le regrette pas, hein. C'est-à-dire que je le dis comme quelque chose qui, je vois une forme de catharsis là-dedans. Je pense que au final, il y a vraiment une grande libération qui agit aussi bien au niveau de ma famille, mais à un niveau beaucoup plus collectif, au niveau de la Bulgarie, évidemment. À travers le film, et que c'est parce qu'il y avait cet objet film que ça a pu arriver, quoi.
J'ai commis quand même un film autobiographique en 78, ça fait un bail quand même, et il était question de moi, mais j'avais la tête, j'étais à l'intérieur de l'image, mais je n'ai pas voulu aller jusqu'au bout pour ne pas gêner le spectateur. Et je me suis entouré le visage d'une bande velpo, ce qui fait qu'on ne me reconnaissait pas. Alors, il y avait une voix il y avait ma voix que les gens pouvaient identifier, mais et je parlais, quand je parlais de moi, je disais il. Alors je mettais des avant d'arriver comme aujourd'hui directement à dire voilà c'est moi, je vous raconte ça. J'ai mis donc, vous voyez, beaucoup de temps finalement, beaucoup de temps. Non pas à me démasquer, mais à penser que je pouvais communiquer avec les autres sur des choses qui m'étaient arrivées, que je pouvais partager avec eux. Que le spectateur peut-être se dise, tiens, ça m'est arrivé aussi de cette façon-là, mais j'ai pas vu exactement ça. Et qu'il le voit maintenant. C'est dans l'ordre presque un peu émotif, c'est-à-dire de merveilleusement découvrir tout d'un coup que il l'a vu, moi je l'ai vécu, et maintenant je peux dire que je l'ai vu aussi. On l'a vu tous les deux. Et je voudrais que ça rajoute peut-être à des moments vécus par quelqu'un un petit parfum et même un souvenir qui tout d'un coup qui redevient vif.
France Culture par les temps qui courent, Marie Richaud avec Bojina Panayotova. Cheval, cavalier, voilà, c'est une transition que je n'avais pas prévue pour parler de cette archive d'Alain Cavalier. Il est en 2011 au micro de Laure Adler, mais il évoque un film de 1900 sorti en 1979, Ce répondeur ne prend pas de message, film dans lequel il a le visage bandé. Bien des années plus tard, il dit que finalement, tout le temps, toute cette filmographie lui a permis de se démasquer et de porter à l'écran des choses à voir, qu'il revoit lui-même une deuxième fois, dont il partage. Il dit « je vis des choses, je les montre, je les vois de nouveau et avec les spectateurs, on l'a vu tous les deux ». Évidemment, pour parler avec vous, Bojina Panayotova, de la manière dont vous existez dans ce film, alors on a dit beaucoup de choses, mais finalement on n'a pas tant parlé de votre visage, de votre corps, de votre voix, quasiment omniprésente au milieu de tout ce cheminement. C'était une évidence immédiate.
Oui, alors je voulais dès le départ effectivement mouiller la chemise. Il y avait un truc un peu comme ça. J'ai été à la Fémis plutôt destinée à faire de la fiction, où on demande aux acteurs voilà, de faire tout un tas de choses, de se mettre dans des états pas possibles, etc. Et je pense que là, j'avais envie de me coller à cette question-là, en assumant bah, tous les risques que ça peut avoir. Et effectivement, ce qu'il y a d'intéressant là avec l'archive de Cavalier, c'est que je l'ai fait, disons, pendant le temps du tournage, je l'ai fait de façon à la fois consciente et aussi un peu inconsciente, ou en tout cas très démesurée, très extrême, très... C'est comme si une partie de moi-même prenait le dessus, un peu comme des comédiens peuvent se faire quelque part posséder par par un personnage, comme par exemple Jim Carrey avec Andy Kaufman. Je ne sais pas si vous voyez ce documentaire incroyable, Jim et Andy, où il explique, et on le voit dans les images du making-of du film, comment Jim Carrey est devenu Andy Kaufman, et donc il n'y a plus aucune limite entre la vie et le film. Et c'est une expérience quasi spirituelle, en fait, pour Jim Carrey. Et je pense que dans ma démarche, il y avait quelque chose comme ça, où j'ouvre une partie de j'ouvre des vannes à l'intérieur de moi, je laisse de côté un petit peu... la partie raisonnée, française un peu aussi, je pense, intellectuelle, enfin vous voyez, ce genre de choses-là. Et je deviens une, voilà, une ado peut-être, ou une enfant, et qui va aussi du coup être traversée par bah, tout un tas de figures qui sont là en fait, pas loin, quand on convoque ce genre d'histoire en fait, quand on parle de régime totalitaire et d'espionnage. Et ben très vite on a des collabos, des inquisiteurs, des agents secrets, un homme de l'ombre. Enfin, vous voyez, tout ce genre de figures de la fiction quelque part. Et moi, je me sentais comme traversée par eux, quoi. J'avais pas de longueur d'avance, j'étais pas spécialiste de la question, mais je me sentais possédée. Et ensuite, quand il y a eu le temps du montage, et c'est là où c'est intéressant ce que dit Cavalier, c'est que c'est un deuxième temps, on revisite. Et là, bah, on va jouer avec ces masques-là. Alors, moi, en l'occurrence, pendant tout un temps du montage, je me suis servi, j'ai essayé de mettre une voix off à la troisième personne, pour justement devenir d'autant plus personnage. Comme, voilà, par exemple, il y a dans Dogville, on parle du personnage à la troisième personne. Il y a un narrateur qui dit « Elle a fait ci, elle a fait ça, elle se sentait... voilà, dans un état, bon. Et en fait, je pense que c'était, ça n'a pas marché au final, on l'a enlevé, mais c'était un des moyens de prendre cette distance-là par rapport à moi-même, et en même temps de trouver bah, dans ce personnage, ce masque, voilà, vous parlez de mon corps, bah voilà, je porte des grosses lunettes rouges, ça m'a aidé, je pense. C'est maintenant, c'est moi-même, hein, évidemment, je les porte toujours, ces lunettes, mais sur le moment, ça, c'était comme voilà, être un personnage qui va d'autant mieux révéler quelque chose de vrai, qui porte aussi un certain masque.
Mais d'ailleurs, comment dire, l'un des mouvements du film, ou l'une des essences qui alimente le moteur, c'est une forme de recherche de la fiction ludique, et qui parfois trouve sa limite quand, dans une conversation avec votre mère, mais ça peut aussi rentrer dans la fiction, dit « tu surjoues ». Bogina, tu surjoues pour le film et c'est inadmissible. Et peu de temps après, vous demande d'éteindre la caméra. Ça dit bien aussi que, en fait, dans cette entreprise-là, la fiction, elle est parfois un horizon indépassable, après quoi le film n'est pas possible. C'est-à-dire que si on va trop près, ça brûle.
Oui. Effectivement, ça, c'est, bon, c'est quelque chose qui est aussi assez classique dans le documentaire. À partir du moment où on met une caméra, tout le monde a conscience qu'il y a un spectateur et qu'on est en train de jouer, on se joue soi-même, on n'est pas en train d'inventer un personnage, mais effectivement, il y a une partie de soi qu'on peut peut-être exagérer. Souvent, on fait ça, en fait. Et en l'occurrence, avec ma mère, ce jour-là, je pense que chacune, il n'y a pas que moi qui surjoue, quelque part, elle aussi, et elle est géniale, je trouve, dans son jeu, parce que, par exemple, à ce moment-là, on est embarqué dans cette voiture en train de faire notre propre enquête, et se prenant à ce jeu-là, je pense que on est un peu, on se prend un peu pour des James Bond girls. Enfin, il y a ce vertige de ces fictions-là qui en fait nous aide à comment dire à nous émanciper de la peur. Hein, quand même, on a très très peur de ce qu'on va découvrir, de cet homme de la police secrète qu'on est en train de chercher et qu'on va qu'on vient de trouver en fait, et que une séquence plus tard on va rencontrer. Et donc voilà, en fait, en jouant avec ces codes-là qui sont effectivement ceux de la fiction, et je pense qu'on l'a fait de manière implicite avec ma mère, on ne l'a jamais dit, mais c'était là, et cet endroit ludique nous a vraiment donné du pouvoir, je dirais.
La peur, elle arrive notamment au fur et à mesure que l'ouverture des dossiers dans les archives de cette police secrète se rapproche et est en mesure ou pas de révéler des choses. Et on n'a trouvé aucune archive qui concernait la police secrète bulgare. Aucune archive en français, en tout cas. En revanche, sur la Stasi allemande, oui.
Beaucoup de personnes nous disaient « Non, il faut laisser le passé derrière nous, regarder vers le futur. » Et la vérité ne fera que diviser la population.
D'un
autre côté, il y avait aussi la peur de donner à chaque individu le dossier qui le concernait, puisqu'on craignait qu'il s'en suive des actes de vengeance, de lynchage même, quand les gens apprendraient qui les avait trahis, qui les avait espionnés et qui les avait envoyés en prison. Donc il y a eu 2 millions de demandes de consultation qui prennent en compte le fait aussi que des personnes ont déposé une demande à plusieurs reprises. Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas de dossier concernant chaque personne. Donc en gros, nous arrivons au chiffre de 1,1 million.
Les
raisons qui ont poussé toutes ces personnes à consulter leur dossier sont multiples. Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui ont été poursuivies par le régime et qui veulent un peu éclairer, comprendre ce qui leur est arrivé, leur destin, puisque dans les dossiers qui se trouvent auprès des services de la justice, la vérité n'est souvent pas dite.
C'est la voix traduite de Marianne Biertler dans un documentaire Surpris par la nuit. C'était la directrice des archives de la Stasi. Si on se permet ce parallèle, c'est parce qu'il est directement fait dans votre film, Bojina Panayatova, Je vois rouge. Je crois que c'est dans votre voix qu'il est dit, c'est la Stasi bulgare, quand vous parlez à un amoureux sur l'écran. C'est un parallèle qui vaut.
Oui, dans tout le bloc soviétique, en fait, dans chaque pays, il y avait une police secrète qui fonctionne de manière... Enfin, c'est typique des dictatures. Hein, voilà, il y en a encore aujourd'hui dans les dictatures qui existent aujourd'hui. La Bulgarie... Donc la spécificité, c'est surtout, en fait, à la chute du mur, l'Allemagne, en fait, ouvre les dossiers très très vite et les gens peuvent effectivement les consulter librement, comme l'explique voilà cette femme. En Bulgarie, ça a mis 20 ans, je crois. Donc c'est très différent parce que, alors d'abord, il y a énormément de documents qui ont été détruits. Et aujourd'hui, il y a une grande méfiance autour de ces papiers parce que on sent qu'ils sont aussi utilisés à des fins de manipulation. Voilà, par exemple, quelqu'un va se présenter aux élections, et bien tout à coup, on lui sort un dossier d'informateur de la police secrète, donc on le décrédibilise comme ça. Et en même temps, on voit bien que justement les gros poissons, quoi, qui sont au pouvoir, les personnes qui détiennent les médias ou ce genre de choses, étaient. On sait qu'ils étaient dans la police secrète, mais impossible de mettre la main sur leur dossier à eux. Donc au final, il y a les gens plus ordinaires comme ma famille, où là on a accès au dossier et c'est un territoire voilà très tabou, difficile, qui suscite beaucoup d'émotivité. En Bulgarie, mon film a été diffusé. Il a vraiment
en salle.
En salle, il est voilà, il a été diffusé en salle. Et en fait, les gens, ça a fait scandale, en même temps événement, ça a provoqué énormément de débats. Il y a des gens qui sont allés à la commission des archives pour demander leur dossier suite au film. D'autres qui sont allés parler avec leurs parents. Enfin voilà, ça a été très très fort comme réaction. Et c'est encore en cours, hein, c'est-à-dire que c'est
Et vous vous y attendiez ?
Alors j'en avais un peu peur, enfin j'avais peur si vous voulez, j'ai passé plusieurs années à monter le film en France, en quelque part en faisant l'autruche, en me disant bon il faut vraiment que je fabrique ce film en France, en essayant de toucher le point de vue le plus universel sur cette question. Et quand je serai prête, quand je l'aurai touché, je pourrai aller en Bulgarie et me confronter à ça, parce que je savais que c'était quand même une zone très sensible. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant, et notamment au niveau de ma génération. C'est sûrement ce que j'espérais, hein, parce que comme
je
vous l'ai dit au début,
quelle meilleure façon de reprendre pied avec un pays et une ville qu'on voulait retrouver, faire un film qui fait événement.
Ouais, effectivement, c'est ma génération, c'est vraiment sentie très concernée par le film. Je pense qu'il y a aussi un effet où voilà, ça fait 30 ans maintenant que le mur est tombé, et le temps est, c'est le bon moment maintenant, voilà. Le temps est venu pour, on est prêt à le faire, à discuter ces questions-là. Et c'est les gens de ma génération qui s'en emparent. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah justement, il fallait que tu sois en France pour pouvoir le faire. Parce que, il y a une distance que, nous, on n'a pas forcément. Et moi, je le vois aussi parce que, bah voilà, la France, c'est aussi, la culture de la psychanalyse. Au fond, bah voilà, Eric Caravaca, il y en a tellement d'autres, des films qui s'attaquent comme ça à l'ordre familial, l'ordre établi. Et c'est une banalité presque. Enfin, c'est très classique, en tout cas. En Bulgarie, c'est quelque chose d'inédit.
Et d'ailleurs, vous êtes renvoyé à ça par vos propres parents, enfin votre père surtout, qui vous renvoie à une génération paranoïaque, anticommuniste, je sais pas comment on dit, il le dit très bien en bulgare, psychanalytico-obsessionnel.
Ouais, l'hystérie, ouais, c'est ça, l'hystérie psychanalytique, ouais.
Et c'est comme ça que, de certaine manière, il vous englobe aussi dans une génération, mais que vous n'avez pas connue, vous, enfin, que vous rattrapez comme ça au dernier moment, puisque c'est pas des gens avec qui vous avez grandi, pas du tout.
Oui, effectivement. Bah, c'est ce qui était un peu curieux, c'est que j'ai débarqué en 2013, il y avait ce mouvement de manifestation dans la rue, et tout de suite, je me suis sentie happée par tout ce qui se passait dans la rue, ce que discutaient ces jeunes. Et je pense que mon père s'est senti un peu trahi, en fait, parce que c'est comme si tout à coup je passais de l'autre côté, quoi.
Du mur, vous voulez dire ?
En fait, c'est vraiment typique, effectivement, des dictatures et de ce qui se passe après une dictature. C'est que la société, elle est divisée en deux. Il y a comme deux clans. Et tout le monde, voilà, en fonction de si on a quelqu'un dans la famille qui a été réprimé ou bien non, justement, et que ça clash, en fait, ça continue à clasher. Moi, cette ligne de séparation-là, c'est ce qui m'a sauté à la figure quand j'ai débarqué en Bulgarie et que j'ai voulu rendre visible à ma façon, de manière, en fait, à l'intérieur de ma famille, plutôt que de regarder chez les autres comment ça jouait. Parce qu'à un moment donné, j'ai fantasmé ça aussi. J'ai fantasmé un film qui allait essayer de faire dialoguer des personnes qui avaient été réprimées avec des personnes qui avaient collaboré vraiment activement au régime. Et en fait, je me suis dit, mais non, cette zone-là, elle existe à l'intérieur de ma propre famille, même à l'intérieur de moi. Et donc, c'est ça que je vais chercher.
Vous parliez du montage tout à l'heure, et j'ai vraiment aucune envie de dévoiler, parce qu'il y a une part du plaisir à regarder ce film qui tient à du suspense, enfin un plaisir de spectatrice ou de spectateur très simple, donc j'ai pas du tout envie qu'on dise quoi que ce soit là-dessus. Le fait est qu'à un moment donné, le film il tombe sur un mur, quoi, lui aussi, et il faut laisser passer du temps, en tout cas c'est ce que fabrique votre montage, et pour qu'une autre sortie, une autre fin soit possible, ça c'est quelque chose qui s'est... réellement passé comme ça, que vous avez écrit au montage, parce que ça veut dire aussi quelque chose de laisser passer du temps. Comment est-ce que vous en arrivez à cette conclusion bien plus apaisée ?
Alors, ça a pris du temps. D'abord, le mur, effectivement, c'est qu'à un moment donné, tout simplement, mes parents me disent stop. Il faut arrêter de filmer. Et même pendant un an, en fait, ma mère mettait vraiment un veto, quoi. Elle me disait, je t'interdis de faire le film. Ou alors, je viens en salle de montage. Ce qui était quand même compliqué pour moi.
Ou peut-être, je ne te permettrai pas de me garder à l'image.
Voilà, c'est ça.
Garder nos conversations.
C'est ça. Ou alors, comme elle me l'avait suggéré à un moment donné, fais une fiction. Une question que je me suis posée, est-ce que tout ça n'était pas le brouillon pour faire une fiction ? Et après, voilà, il y a du temps qui est passé, un temps quand même très salutaire, où moi, de mon côté, j'ai commencé à regarder beaucoup d'images d'archives, notamment justement ces pionniers, les images de la propagande avec les enfants soldats, quoi, qui sont prêts à tout, et où, en fait, je me reconnaissais, quoi, de plus en plus. Je me disais, mais en fait, c'est vrai ce que mon père me dit à un moment donné dans le film. Je lui fais penser à un petit pionnier légendaire.
Qui dénonce ses parents.
Voilà, ça c'est le petit Pavlik russe qui à un moment donné dénonce ses parents au nom de l'idéologie communiste. Et ils sont envoyés, enfin ils sont tués quoi. Et mon père me dit voilà, maintenant tu fais ça au nom de la vérité, du cinéma. Mais en fait c'est pareil, tu es exactement totalitaire de la même façon. Et c'est vrai que en regardant ces images, ça s'est mis à résonner de façon très très forte et ça m'a guidée dans le propos de mon film, dans le montage, parce que c'est aussi ça que je voulais rendre visible.
C'est-à-dire, oui, un cinéma peut être totalitaire, il faut s'en méfier, et pour s'en méfier, il faut emprunter des chemins de complexité, d'hybridation, de mise en scène de ses propres questions, etc. etc.
Exactement. Et pour poursuivre la question, ma mère, elle, de son côté, a fait un grand travail aussi. Elle a toujours rêvé d'écrire un roman, et donc en fait, elle s'est dit qu'elle voulait le faire à l'occasion de cette histoire. Et donc petit à petit, elle s'est mise à me demander les rushs du film pour écrire. Et donc elle a écrit un texte qui est vraiment génial parce que c'est comme le pendant. Il y a un vrai miroir en fait du film, c'est le personnage prend la parole et dit attendez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, c'est pas comme ça. Et en même temps, elle joue sur la même frontière de réel et fiction quelque part, ou en tout cas personnage, parce que là où c'était intéressant, c'était pas forcément là où elle était, elle y allait pas avec le dos de la cuillère quoi. Elle fait de moi son personnage et bah elle va chercher là où j'ai des contradictions, là où je me trompe, enfin voilà toutes
Faudrait
mes faiblesses.
Voir le film et lire le bouquin en même temps quoi, presque pour avoir la totalité.
Bah en tout cas c'est très ludique les deux en miroir, marche très bien ensemble. Et du coup, ben, y a quelque chose de... En fait, il y a une complicité qui a commencé à naître à ce moment-là avec ma mère, aussi sur la fabrication d'une œuvre, en fait. Et donc, à partir de là, non seulement elle était d'accord pour qu'on fasse le film, mais elle était d'accord pour qu'on joue de nos propres personnages, quoi.
Respecter l'espace intime de l'autre, c'est faire alliance avec la nuit, sans vouloir y mettre fin. Penser que la lumière n'est pas le contraire du noir, mais sa plus secrète alliée. Et reconnaître dans le secret, acte, pensée, émotion. Le contraire d'une menace, la condition même de la relation. L'intime est, comme le rêve, source d'une intelligence dont nous sommes les récepteurs plus que les ordonnateurs. Les déchiffreurs plus que les créateurs. Je vais te dire quelque chose que tu ne diras à personne. La confidence est une invitation dans la zone la plus intime d'un être. Mais l'élection est aussi une mise à l'écart. En un sens, avec le secret, on est toujours trois. Le gardien, le témoin, l'exclu. Cette ternarité essentielle peut toujours s'embraser dans la jalousie ou la conquête du pouvoir. Mais avant même toute confidence, il y a cette parole cachée qui passe entre soi et soi. L'écho en nous de la voix intérieure, de la confession intime au rêve, fait son travail de germination jusqu'à créer ce qu'on appelle le jardin secret. Depuis l'enfance, cette immense réserve est source de création, de liberté et de joie. Mais pour toutes ces mêmes raisons, elle est mise sous séquestre.
Avec un extrait de La Défense du secret de Anne Dufour-Mantel, qui était philosophe et psychanalyste, que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre, qu'on va terminer cette émission, enfin essayer, Bojina Panayatova, parce qu'à un moment donné, votre père dit que c'est un droit, en fait, et que, qu'il s'agisse de son propre père, votre grand-père, ou de sa vie à lui, ou de la vie de son ex-femme, en fait, en cherchant à ouvrir ses dossiers, en posant toutes ses questions, en faisant des images, en enregistrant, vous violez ce droit au secret. Et on sent que le montage et la manière dont vous écrivez ce film est aussi une manière de dire comment vous progresser sur cette question-là, pas au sens du progrès, mais au sens de l'avancement, et que peut-être d'un idéal enfantin du dévoilement total, vous arrivez à quelque chose d'un tout petit peu différent à la fin du film. Vous en diriez quoi ?
Ouais, c'est. Ben, je suis tout à fait d'accord que ça a été l'objet principal en fait de la quête et que effectivement ça se termine pour moi à la fois dans ma vie et dans le film par la naissance de mon enfant et que je suis à mon tour en fait dans cette place de parent qui va donc faire des erreurs, enfin qui en fait déjà. Qu'un jour on va me demander des comptes et quelque part ça revient aussi à Caravaca avec qui on commençait, l'enfant il va toujours être dans cette place de venir te chercher là où tu n'avais pas envie de regarder et je pense qu'il y a rien de plus salutaire, excitant, stimulant que ce mouvement là en fait, ce cycle là. Je pense qu'un jour ça va m'arriver. Enfin, ça m'arrive déjà, à vrai dire. Voilà, il est tout petit, mais il me bouscule énormément. Je suis. Enfin, cette exigence de comprendre ce qu'il y a derrière, avec toutes les zones d'ombre, effectivement, toutes les zones de fantasmes, de secrets, moi me pousse à chercher et à avancer. Et donc voilà, effectivement, j'ai essayé de transcrire cette complexité-là où j'ai pas de solution, hein, évidemment.
Ou en tout cas, la solution, elle n'est pas ni noire ni blanche ou d'un côté ou de l'autre du mur, parce qu'on parle aussi d'un secret qui est parfois utilisé politiquement, qui est parfois utilisé pour tuer des gens, qui est parfois utilisé pour faire pression. Donc ce n'est pas non plus, ce film-là ne va pas non plus contre le secret, mais dit juste que c'est compliqué. C'est compliqué à l'échelle intime comme à l'échelle d'un pays, d'une certaine manière.
Ouais, c'est compliqué, mais c'est passionnant.
Il est vu encore en Bulgarie, ce film-là, qui sort aujourd'hui en France ?
Alors, on espère qu'il sera diffusé à la télévision pour que voilà, ça touche le plus grand nombre, parce que le cinéma art et essai en Bulgarie, c'est vraiment... il y a très, très peu de salles, donc ça a touché quand même relativement peu de gens. Donc voilà, là, c'est un petit peu la bataille qui reste.
Facile à mener avec le sujet que vous traitez ?
Non, pas facile. Il y a eu, par exemple, une des télévisions qui était intéressée au départ et on s'est rendu compte après coup que elle appartient à l'un des oligarques que je cite dans mon film et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles finalement il n'était plus intéressé. Voilà.
À suivre. Juste quelques tout petits mots sur L'immeuble des Braves, parce que c'est le court-métrage qui a été primé au cinéma du réel et qui est parfois visible dans certaines des séances. Est-ce que vous nous dites de quoi il est question ?
Alors, il est question, c'est un film qui se passe aujourd'hui. C'est un homme, en fait, qui cherche ses chiens qui ont disparu. Et je le suis, en fait, dans une sorte de quête éperdue.
En Bulgarie.
En Bulgarie, voilà, ça se passe à Sofia. Et en fait, on se rend compte, à l'occasion de cette recherche, la manière dont la mafia a infiltré toutes les zones de la société, mais aussi la tête des gens. Donc, en l'occurrence, ce personnage que je suis et qui, quelque part, on ne sait pas s'il délire ce qui est arrivé à ses chiens ou si c'est vraiment arrivé, mais en tout cas, son cauchemar s'appelle « Mafia et chiens massacrés ». Voilà, et c'est en fait là où ça rejoint ma démarche aussi dans « Je vois rouge », c'est que c'est un documentaire avec une matière très brute, mais qui joue aussi avec les codes du thriller, de la fiction aussi à un endroit, quoi.
Merci beaucoup Bojena Panayatova, Je vois rouge et donc de temps en temps L'immeuble des Braves en ce moment en salle. You walk out your front door out into sound and sun and people say hello to you. And you say hello to everyone. The leaves are falling down À la prise de son ce soir, c'était Jean Frédérix. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Valentin Rémy et Romain de Becdelièvre. Dans un instant sur France Culture, c'est le journal. Quand vous voulez sur franceculture.fr, c'est les archives, la liste des musiques, plein de liens vers les podcasts, notamment pour écouter ces émissions quand vous voulez. À demain. Your brothers here on land. There's not enough breath in a single day to pray everyone will be okay. The afraid of you and you're not